On a réussi un coup épatant qui était de finir au même point que l'avant-dernière fois. Alors, bon, aujourd'hui, on avance un peu. Mais la dernière fois et l'avant-dernière fois, donc, on avait juste essayé, encore une fois, c'est un programme qu'on construit. On avait juste essayé de marquer deux points de mutation dans une image de la pensée. Là, c'était substitution de la croyance au savoir. L'autre, c'était position du corps. Donnez-moi donc un corps. Et là, je ne peux plus revenir sur tout ça. Mais je tiens à marquer l'unité des deux. Comment quand même ça appartient bien à un même bouleversement dans l'image qu'on se fait de la pensée. L'unité des deux, c'est, vous vous rappelez, que la substitution de la croyance au savoir, d'une certaine manière, on ne peut pas l'arrêter. À chaque moment, elle peut prendre un certain équilibre, par exemple, une redistribution des rapports savoir-croyance tels que l'opère Kant. Kant opère une redistribution à partir de sa formule de fond, j'ai dû substituer la croyance au savoir, il opère une redistribution du savoir et de la croyance. On peut donc marquer des points d'équilibre. Ça n'empêche pas qu'on sera toujours entraîné hors de tel ou tel point d'équilibre. Et que la substitution de la croyance au savoir, là je ne parle plus de Kant, on l'a vu, nous amène à réclamer quelque chose de tout à fait nouveau. Nous réclamons, je disais, des raisons de croire en ce monde-ci. Et c'est sans doute là que la substitution de la croyance au savoir trouve son point le plus extrême, lorsque la croyance se fait réclamation de raison de croire en ce monde-ci. Car il y a un problème que je n'ai pas abordé, que je ne compte pas aborder, c'est évidemment des raisons de croire en ce monde-ci. Mais qu'est-ce que veut dire raison ? Ce sont bien des raisons, mais en quel sens ? En quel sens, puisqu'il ne s'agit sûrement pas de la raison pure. Qu'est-ce que c'est une raison ou des raisons de croire en ce monde-ci ? C'est presque le passage de la première à la deuxième formule. Croire en ce monde-ci, c'est quoi ? C'est croire à la possibilité de la vie dans ce monde. C'est croire à la vie. C'est-à-dire, c'est croire au corps. En d'autres termes, les raisons de croire en ce monde-ci, c'est le corps. Donnez-moi des raisons de croire en ce monde-ci, c'est donnez-moi donc un corps. Au point où nous en sommes, on considérait comme une objection tout à fait déplacée qu'on nous réponde. Croire en ce monde-ci, ça se fait tout seul. Ou bien un corps, vous l'avez déjà. Sans doute je l'ai déjà en fait, et sans doute je crois en ce monde-ci en fait. Mais d'une certaine manière, je pose une question de droit. Je réclame des raisons de croire en ce monde-ci. Et je demande un corps, qu'on me donne un corps. Et je disais la dernière fois, ne vous attendez pas, évidemment, et vous n'y attendiez pas, à ce que ce corps soit un corps glorieux, ou même soit un corps grec. Oh non, ce n'est pas un corps grec. Pourquoi je dis un corps grec ? Parce qu'on l'a vu. Le corps grec, même comme corps, c'est une matière informée par une belle forme. c'est le modèle du savoir. Et la gymnastique est un savoir. Et le corps grec, c'est la matière informée. C'est ce corps qui fait partie du monde du savoir. Donc, ce n'est pas un beau corps grec que je demande quand je dis « donnez-moi donc un corps ». Alors, je disais « oui, ça peut être un corps fragile ». Ou même pire, un corps fatigué. Un corps fatigué, bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un corps fatigué ou bien un corps qui attend quelque chose. La fatigue latente. La fatigue latente. C'est le contraire du corps informé, c'est le contraire de la matière informée par une belle forme. La fatigue latente marque une inadéquation du corps avec soi. Pourquoi que je répète la fatigue latente, la fatigue latente? Je répète toujours dans mon souci d'établir ces espèces de court-circuits de la philosophie au cinéma. La fatigue latente, j'ai parlé d'un cinéma des corps. S'il y a un cinéaste des corps et un des premiers, hors de ceux que j'ai cités, c'est bien connu, c'est Antonioni. Qui mieux qu'Antonioni a su mettre dans les corps la fatigue latente? Qu'est-ce que ça veut dire, mettre dans les corps la fatigue latente? Là, je dis, enfin, ceux qui étaient là l'année dernière comprendront tout seuls, les autres, ça n'a pas d'importance. Je dis, c'est évidemment un corps qui marque le temps ou sur lequel le temps s'est inscrit. C'est un corps qui nous donne une image directe du temps. C'est un corps qui est le corps du temps. C'est ça, ce corps fragile. Toujours fatigué, toujours en attente. Alors, c'est vous dire que c'est pas du tout le corps grec. Hein. Le corps grec, c'est le corps de l'adéquation. C'est le corps mouvement, le corps grec. Mais nous, il y a longtemps qu'on n'a plus de corps mouvement. On a des prothèses. Le mouvement, c'est les prothèses. Je veux dire, l'automobile, tout ce que vous voulez, c'est des prothèses. En revanche, si on n'a plus guère de corps mouvement, hein, c'est-à-dire les choses se meuvent pour nous, on a un corps temps. C'est ça qui fait notre mauvaise santé radicale. La fatigue latente, c'est l'écharde dans la chair. Eh bien, on n'ôte pas l'écharde. Bien plus, on a besoin de l'écharde pour croire au monde. On a besoin d'un corps fatigué pour croire au monde. On a besoin d'un corps en attente pour croire au monde. La raison de croire au monde, c'est le corps. À quel prix? Au prix suivant. Que le corps inscrive, enregistre directement le temps. C'est fini le cœur gracieux des corps grecs. Le cœur, c'est H, la ronde. c'est fini. Alors, bon, vous voyez, je suis uniquement en train d'unir. Tant qu'il a cette écharde dans la chair, il peut vivre. Tant qu'il a cette écharde dans la chair, il peut vivre. C'est une phrase très belle, mais tout le contexte est très beau. C'est une phrase très belle de Kierkegaard. Le thème de l'écharde dans la chair, c'est un thème kierkegaardien. Le héros kierkegaardien a fondamentalement une écharde dans la chair. Tant qu'il a cette écharde dans la chair, il peut vivre. Donnez-moi un corps, ça veut dire donnez-moi une écharde dans la chair, mettez-la moi. Est-ce que ça veut dire un goût de souffrir? Non, comprenez, un goût de souffrir, tout ça, c'est très secondaire. Ça veut dire que mon corps devienne l'inscription du temps, que mon corps révèle le temps, la fatigue, l'attente. Il ne s'agit plus de bouger. Bon, voyez. Je voulais juste dire, c'est en sens, et là il faut que ce soit lumineux pour vous. Sinon je ne peux pas avancer. Alors je recommence tout. Il faut que ce soit lumineux pour vous, le lien donc entre les deux formules. Donnez-moi des raisons de croire au monde, c'est-à-dire substituer la croyance au savoir, d'une part, et d'autre part, donnez-moi donc un corps. Le lien des deux étant que la raison de croire, c'est le corps. Une fois dit que le corps, c'est le corps qui porte directement le temps, la fatigue et l'attente, par opposition au corps grec, qui était le corps du savoir. Le corps de la croyance, c'est un pauvre corps, quoi. Un pauvre corps, mais si puissant. Ça va? Je veux dire, je ne vous demande pas si vous êtes convaincu. Il faut y croire à tout ça. Il faut absolument y croire. Si vous n'y croyez pas... La sélection, elle se fait toute seule ici. Si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas revenir. Si vous voulez des explications, je peux vous répondre, ah ben non, je ne peux pas tout seul. Il faut y croire. Voilà. D'où, on va continuer. Je dis, il y a un troisième aspect dans cette mutation. Un troisième aspect que j'essaierai de résumer en disant la pensée vient du dehors. Là aussi, c'est une mutation. La pensée vient du dehors. Je dis, là aussi, c'est une mutation qu'il faut tout de suite, avant même de savoir ce qu'on va dire, il faut évaluer l'importance de la mutation. C'est qu'avant, la pensée existait fondamentalement en alliance avec un sens intime ou un sens intérieur. Et la pensée, d'une certaine manière, était essentiellement pensée du dedans. Que la pensée vienne du dehors. Voilà, ce serait le troisième cri. Tout comme je cherche à marquer dans chaque cas certains auteurs, ils ne dépendent pas les uns des autres. Là, je voudrais aujourd'hui développer ce troisième aspect de la mutation. Et à mon avis, les deux plus grands auteurs qui ont développé l'idée d'une pensée qui vient du dehors, c'est Blanchot et c'est Foucault. Et pas sans rapport l'un avec l'autre, puisque Foucault écrit un article en 1966 dans la revue Critique sous le titre La pensée du dehors et qui est un hommage à Maurice Blanchot. La même année, pour son compte, Foucault publie Les mots et les choses. Or, je dis immédiatement, on aura l'occasion de revenir. Encore une fois, c'est des programmes et il faut que j'arrive à la fin de mon programme pour vous expliquer à la fois ce que j'attends de vous et ce que vous êtes en droit d'attendre de moi. Donc on verra tout ça plus tard. Mais ce que je tiens à dire immédiatement, c'est que il me paraît certain que l'œuvre de Foucault a traversé, n'a cessé de traverser un certain malentendu qui était son rapport avec l'histoire et la manière dont il se servait de l'histoire. Qui peut faire croire à certains lecteurs, même de très bonne foi et très admiratifs, que Foucault était devenu presque plus historien que philosophe. Or, il me semble au contraire que cette œuvre n'a jamais abandonné le plus pur élément de la philosophie. Simplement entretenu avec l'histoire un rapport tout à fait original, mais tout ça on aura à le voir. Et s'il est resté, et s'il reste dans l'élément le plus pur de la philosophie, c'est que, à mon avis, une seule chose a intéressé Foucault, c'est qu'est-ce que signifie penser ? Et que par là, alors, pourquoi est-ce que lui avait besoin de passer par des objets historiques pour avancer dans sa recherche ? Ça, c'est une question. Mais si vous voulez, lorsque, d'une certaine manière, à la fin de sa vie, il se réclamait ce qu'il n'avait pas fait avant. Il se réclamait d'une certaine, non pas de dépendance, mais d'une certaine affinité avec Heidegger. Il va de soi que le point d'affinité était que, tout comme Blanchot, tout comme Heidegger, c'est une œuvre qu'il cesse de s'interroger sur. Que signifie penser ? Or, entre Blanchot et Foucault, la réponse c'est la pensée, c'est l'exercice du dehors. Et là, ça revient bien à une tâche qu'on a à faire cette année, nous tous. À savoir, si je prends Blanchot, pour une raison simple, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez aussi bien que moi, beaucoup d'entre vous, Blanchot. Et voilà que beaucoup de thèmes de Blanchot ou proches de Blanchot sont comme devenus les lieux communs d'une espèce de manière de penser moderne. C'est-à-dire, on y est immédiatement familier. Je ne veux pas dire du tout, je ne parle pas du tout de snobisme. Je veux dire que c'est des thèmes que même sans avoir lu Blanchot, on a comme respiré. Si bien qu'on se trouve vis-à-vis d'eux devant une drôle de situation. On est familier avec eux et je ne suis même pas sûr qu'on les comprenne bien. Si bien qu'une de nos tâches cette année, ce serait peut-être d'essayer d'y voir clair dans une pensée comme celle de Blanchot, essayer de, dans une pensée comme celle de Foucault, qui, elle, pour d'autres raisons, risque de nous échapper, puisque l'apparence historique de son analyse risque de nous cacher la manière dont il empoignait le problème que signifie penser. Bon, c'est dans tout ça qu'il faut mettre de l'ordre. Et je dis, c'est très curieux. Donc Foucault intitule l'article sur Blanchot « La pensée du dehors ». Et en effet, le dehors, c'est un thème que Blanchot ne cesse d'invoquer. Et encore une fois, je ne présenterai jamais Foucault comme un disciple de Blanchot, mais je pense que il a emprunté, en le disant, toujours en le disant, qu'il a emprunté certains thèmes de Blanchot pour les reprendre à sa façon, les recréer à sa façon et suivant une méthode complètement différente qui définit l'œuvre de Foucault lui-même. Ce qui me permet de parler de l'un et de l'autre à la fois, à ce niveau de « mais qu'est-ce que signifie cette pensée du dehors ?» Ben, pour le comprendre, je commence par revenir au modèle, appelons-le modèle classique, modèle de la connaissance ou du savoir. Car le modèle de la connaissance ou du savoir, le modèle classique, l'image qu'on pourrait appeler maintenant l'image classique de la pensée, j'ai essayé de le définir la dernière fois, mais j'en ai défini qu'une partie, d'une certaine manière, j'en ai défini le cadre. Je disais, le modèle du savoir pose une conformité de la nature et de l'esprit, de l'homme et du monde. Et cette conformité, il faut la prendre à la lettre, puisque cette conformité est une connaissance. Ou inversement, que la connaissance est une conformité, puisque connaître, dans le schéma aristotélicien, c'est l'opération d'un intellect capable de prendre la forme, de prendre la forme de la chose, conformité. Et on avait vu que tous ces thèmes se regroupaient dans la notion claudelienne de connaissance. Mais je dirais presque que ça définit le cadre de la connaissance. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre? Quel mouvement? Ben, je dirais que le mouvement de connaître, dans le modèle classique, se fait suivant deux axes. Et ça ne doit pas nous étonner d'après le début, si vous vous rappelez notre tout début. Il se fait d'après un axe qui définirait la possibilité logique de la pensée. Et il se fait suivant un axe qui désignerait la possibilité organico-psychologique de la pensée. Le premier axe de la possibilité logique de la pensée se présente comme le concept. Et le concept je dirais, est à la fois l'objet et le sujet, c'est-à-dire se confond avec un double mouvement. Intégration, différenciation. L'intégration définira, par exemple, le concept comme genre, ou même comme genre suprême. Là, j'essaie de grouper des choses comme ça. La différenciation. On verra la spécification du concept, la façon dont le concept comme genre se divise en sous-concept ou en espèce. La différenciation du concept générique, du concept comme genre, en concept spécifique. Et je peux dire que la pensée logique va de l'intégration à la différenciation et de la différenciation à l'intégration. Suivant l'autre axe, qu'est-ce que nous avons du côté de la possibilité organico-psychologique de la pensée? Nous n'avons plus le concept comme tout qui intègre et se divise, c'est-à-dire comme genre suprême. Nous n'avons plus le concept comme tout qui s'intègre et se divise, qui intègre les espèces en un genre et qui divise le genre en espèces, intégration, différenciation. Du côté de la possibilité organico-psychologique, nous avons les images. C'est donc mon deuxième axe. Nous avons les images et quoi ? Ben, et leur enchaînement. C'est-à-dire la manière dont une image sort d'une autre image ou s'enchaîne avec une autre image. L'organico-psychologique fournit des images associables et associées. Bien, si bien que cet axe, à son tour, tout comme en axe tout à l'heure, vous voyez, les choses, elles s'harmonisent, elles sont harmonieuses par nature, quoi. Pour l'axe précédent, j'avais déjà un double mouvement. Le concept comme tout, j'avais un double mouvement. L'intégration et la différenciation. Là, il me faudrait un double mouvement aussi. Ce serait plus joli si c'était... Et si c'est plus joli, c'est plus vrai. Évidemment, on a un double mouvement. Car il est bien connu que tantôt les images s'associent par ressemblance et tantôt les images s'associent par continuité. La ressemblance et la continuité sont les deux lois de l'association des images. Qu'on ne me dise pas, et bien sûr vous ne me le dites pas, que l'associationnisme est une vieille théorie dépassée. Car l'affirmation que l'associationnisme est une vieille théorie dépassée est une affirmation non seulement dépassée, mais stupide. Je veux dire, ce qui s'est passé, c'est que, une fois que l'associationnisme a été dégagé par notamment certains auteurs du XVIIIe siècle, à savoir les lois d'association des images, la théorie de l'association a donné lieu à toutes sortes de remaniements, de corrections, d'enrichissements. Mais la base ou le noyau de la théorie est resté strictement intact pour la bonne raison que là aussi ce sera un très bon exemple en quoi il y a une rigueur en philosophie. Il n'y avait absolument rien à transformer sur ce fait brut. Et qu'est-ce qu'il y avait eu de fantastique dans l'associationnisme, hein? Et dans son introduction au XVIIIe siècle, c'est que ça avait introduit dans la philosophie la première grande théorie des relations. Et que les fameuses histoires, association par ressemblance et association par continuité, vous ne pouvez en saisir la nouveauté ou l'importance du point de vue d'une théorie de la pensée que si vous comprenez que ça signifie la ressemblance et la continuité sont les deux relations fondamentales dont peut-être toutes les autres dérivent. Bon. Et que le point de départ de l'associationnisme, il est tout simple. C'est pas parce que deux idées se ressemblent, c'est pas parce que deux images se ressemblent qu'une image va me faire passer à une autre qui lui ressemble. Vous comprenez où est le miracle? Le miracle, c'est pas qu'il y ait des choses contiguës ou des choses ressemblantes. Le miracle, c'est que la ressemblance et la contiguïté soient des relations. À savoir que l'image de quelque chose qui m'est donné me fasse penser à quelque chose qui n'est pas donné parce que ça lui ressemble. Je vois le portrait de Pierre, je pense à Pierre. Vous me direz, ça va de soi. puisque le portrait ressemble au modèle. Rien du tout, ça ne va pas de soi. Ça va de soi si la ressemblance est une relation. Comment faut-il être fabriqué pour que la ressemblance soit une relation? Comment faut-il être fabriqué pour que la continuité soit une relation? Ça, c'est la question des associationnistes. Cette question, personne n'a jamais pu l'améliorer, cette question même, et personne n'a pu y donner une autre réponse que celle que, dès le XVIIIe siècle, Hume lui donnera. Bon. Je dis en tout cas, je m'en tiens juste du point de vue de la possibilité organico-psychologique de la pensée. J'ai donc l'association des images associables et associées suivant la double relation de la ressemblance et de la continuité. J'ai donc deux axes avec quatre mouvements, deux pour chaque axe. Vous me suivez là, ce que je dis est très très facile, hein, vous le sentez vous-même. J'ai donc mes deux axes, mes quatre mouvements. J'ai le concept comme tout, auquel correspond intégration, différenciation. J'ai les images auxquelles correspondent association par ressemblance, association par contiguïté. J'ouvre une parenthèse. La linguistique moderne, elle entre complètement dans ce schéma. C'est même inquiétant si on est en train de chercher une image moderne de la pensée. Ce serait, je ne sais pas si c'est inquiétant, enfin, tout ce que je dis, c'est que la linguistique dont on en parle toujours, elle rentre absolument dans ce schéma, dans mon schéma à quatre, à deux axes et quatre mouvements. Je prends l'exemple de Jacobson. Peut-être qu'on le retrouvera comme on le retrouvera sûrement. Là, je situe juste des choses, je mets tous mes pions en place. Je remarque à un premier niveau le fameux problème de la métonymie et de la métaphore reprend explicitement chez Jacobson le thème de la contiguïté et de la ressemblance. Bien plus que dans une théorie linguistique de l'aphasie, remarquez que l'aphasie fut toujours un grand problème de l'associationnisme, et bien de ce trouble cérébral qui donne l'aphasie, on distingue plusieurs types d'aphasie. Mais dans l'étude très magistrale que Jacobson fait de l'aphasie du point de vue linguistique, il distinguera une aphasie comme trouble de métonymie ou de contiguïté et une aphasie comme trouble de métaphore ou de similitude. Je remarque que les linguistes aussi nous parlent beaucoup d'une notion tout à fait fondamentale pour eux, plutôt d'un couple de notions fondamentales, la syntagmatique et la paradigmatique. Je ne cherche pas à le définir en ce moment, on retrouvera tout ça plus que peut-être vous ne le souhaitez. Mais je dis en très gros, bon, supposons que le syntagme, que ce soit la consistance d'unité linguistique continue, constituer une série d'unités linguistiques successives qui se suivent les unes les autres d'après certaines lois d'enchaînement. la paradigmatique, c'est plus la contiguïté, c'est beaucoup plus la similitude. En quel sens? C'est le modèle linguistique d'après lequel nous sommes amenés à choisir dans un énoncé un mot plutôt qu'un autre mot qui lui est, à des égards énonçables, qui lui est semblable. Par exemple, je dis « tu as une belle maison ». Et je ne dis pas « tu as un beau château ». Est-ce qu'il y avait une dichotomie, la maison-château? Je suppose que ce soit que ce que je vois est comme à la frontière. Est-ce un château? Il y a des gens du pays qui appellent ça château. Mais moi, je me dis, c'est pas un château, c'est une maison, c'est une grande maison. Dans ma phrase, je choisis tel mot plutôt que tel autre. Je dis, par exemple, la nièce d'Alfred, alors que je pourrais dire la fille d'Octave, à supposer que ce soit la même personne. Hein. Bon, vous voyez que là, j'ai un système. Bon, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? C'est que syntagmatique, paradigmatique. Donc, vous voyez, si j'appelle syntagme, pour le moment, je me donne vraiment la notion la plus rudimentaire de base. Hein. Si j'appelle syntagme un lien d'unités successives, un lien de proche en proche d'unités de langage successives, si j'appelle paradigme le choix entre des unités semblables à certains égards, là, ça me paraît intéressant parce qu'au niveau de la syntagmatique et de la paradigmatique, je retrouve mes deux axes. D'une part, je retrouve l'axe des images, similitude-ressemblance, et d'autre part, je retrouve l'axe intégration, à savoir unité intégrante du syntagme qui intègre ses propres parties, et différenciation dans le paradigme. Choix d'une unité plutôt qu'une autre qui aurait pu se mettre à sa place. Juste pour dire, ben, après tout, si on en restait là, je ne sais pas ce que nous réserve la linguistique, mais c'est curieux comme elle se sert d'un modèle très respectable, mais d'un modèle très, vraiment très, très ancien de la pensée. Elle a peut-être toute raison de le faire, hein, c'est juste comme ça, c'est juste une perfidie en passant, quoi. Oh, mais il faudra se demander pourquoi. Et finalement, chez Jacobson, vous retrouverez le jeu des deux axes. Similitude, contiguïté d'une part, et d'autre part, intégration, différenciation. Bien. Alors, je veux dire quoi? Eh bien, je veux dire que le savoir, c'est la communication, la rotation perpétuelle des deux axes. Ce mouvement du savoir, c'est en cela que le savoir est un mouvement. Ce mouvement du savoir, je peux le présenter comment? Je dirais que le concept comme tout, ne cesse, ou si vous préférez, en même temps qu'il se différencie il s'extériorise dans des images associables. Le concept comme tout se différencie, mais en même temps il s'extériorise dans des images associables. Inversement, les images s'associent, mais en s'associant, elles s'intériorisent dans le concept comme tout qui les intègre. Et le mouvement du savoir ne cesse d'être le mouvement par lequel, en se différenciant, le concept s'extériorise dans les images et par lequel les images, en s'associant, s'intériorisent dans le concept. Qu'est-ce que c'est clair, hein? Ce double mouvement de l'intériorisation et de l'extériorisation définit le mouvement du savoir, ou si vous préférez, le dedans comme conscience de soi. Le dedans comme conscience de soi, c'est-à-dire le pur concept, ne cesse de s'extérioriser dans l'image, et l'image ne cesse de s'intérioriser dans le concept. Et on appellera ça le tout. Et l'auteur extrême qui a poussé alors jusqu'à l'extrême bout des conséquences une telle vision du savoir, et dès lors devait le nommer le mouvement même du savoir absolu, c'est Hegel. Et chez Hegel, il y a une distinction qui me paraît très intéressante. Les deux grandes œuvres de Hegel, c'est la phénoménologie de l'esprit et la logique. Et dans le vocabulaire hegelien, la phénoménologie développe des figures, tandis que la logique procède par moment. Il serait très fâcheux de confondre chez Hegel les figures et les moments. Les figures de la conscience et les moments du concept. Bien qu'il y ait une curieuse correspondante et que tout le hegelianisme soit le rapport et l'étude de tous les mouvements par lesquels la figure devient moment et le moment devient figure. Je dirais, là, je deviens très infidèle, là, mais j'essaie de dire en quoi Hegel me paraît précisément faire partie de cette image classique du savoir. C'est que les figures sont réellement sont l'analogue d'images associables et qui, en s'associant, s'élèvent jusqu'au concept comme tout, et s'intériorise dans le concept, si bien que la fin de la phénoménologie, c'est le savoir absolu comme intériorité, qui a intégré toutes les figures. Et inversement, la logique, ça va être le mouvement inverse, à savoir le concept comme tout, qui se divise d'après ses moments, mais se divisant d'après ses moments, il s'extériorise dans des figures. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir de tout ça? Pourquoi je dis? C'est ça la pensée du dedans. La pensée du